Bonjour pour ce nouveau numéro de Rien à voir, le magazine de la rédaction. Laissons le soin à nos invités de s'annoncer.
Bonjour, je suis Héloïse Chiron. Je fais partie du bureau de l'association RAP Résistance à l'agression publicitaire, qui est une association qui existe au niveau national et aussi au niveau local.
Et moi, je m'appelle Tanguy Delair, je fais partie du même bureau et aussi au groupe local de Paris.
Interview réalisée lors de la deuxième édition des universités d'été des mouvements sociaux et des solidarités.
Moi, je pense que l'antipub en France a pris de l'essor. Nos modes d'action sont nombreux. Tout d'abord, au niveau local, on fait du plaidoyer, on rencontre les députés. On fait des actions aussi de sensibilisation dans la rue parce qu'on aime beaucoup. C'est très amusant de prendre son pinceau et d'aller écrire sur les panneaux publicitaires. Et puis, on a un autre travail important au niveau plutôt national qui est le plaidoyer, rencontrer les députés, les sénateurs au niveau national. Et ça, ces dernières années, on a fait un peu plus parler de nous. Alors notamment là, il y a eu le projet de loi climat sur lequel on a beaucoup travaillé.
Tu peux développer.
Bah alors le projet de loi climat, suite aux manifestations des Gilets jaunes, le président Emmanuel Macron avait proposé de faire une convention citoyenne. Donc les citoyens se réunissaient pour faire des propositions de loi qu'ils soumettaient ensuite aux députés puis aux sénateurs. Alors ça paraissait très démocratique. La convention citoyenne a rencontré notre association RAP parce que c'est vrai qu'on est une association qui existe depuis 25 ans et on commence à avoir certaines compétences,
expertise sur la pub. Beaucoup d'experts en général et puis du coup sur la pub ils nous ont intéressés nous.
Et donc ils ont retenu des propositions que l'association faisait depuis plusieurs années, notamment la loi E20 climat, voilà. Et puis d'autres propositions.
L'interdiction de publicité et de promotion pour des produits qui sont jugés trop polluants. C'est en référence à la loi E20 qui a interdit du coup la promotion du tabac ou de l'alcool.
Voilà, d'autres propositions ont été retenues. On a une petite proposition qui est la suppression des avions publicitaires. Mais bon, la majorité des propositions n'ont pas été retenues concernant la
pub. Je tiens quand même à dire que c'était un sujet un peu d'importance, parce que sur les 149 propositions, il y en avait quand même 11 sur la publicité, qui étaient vraiment directement sur la publicité, quoi. Donc, loi E20 climat, il y avait
les avions,
il y avait sur l'interdiction des écrans numériques.
Il y avait la boîte aux lettres. Alors la boîte aux lettres, nous, on, depuis plusieurs années, on propose qu'au lieu d'avoir un non pas de pub, ce soit un oui pub. Et alors, cette proposition a été un peu modifiée. Le gouvernement a proposé qu'il y ait quelques communes qui fassent de l'expérimentation. Voilà.
Sur une base de volontariat en plus. Donc, il faudrait que les communes soient volontaires. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles finalement. En plus, une fois que ce sera expérimenté, c'est une expérimentation de 3 ans, je crois me rappeler. Et ce qui va se passer, c'est juste qu'il y aura un rapport. Est-ce que ce rapport sera entendu? Est-ce qu'il y aura un truc à l'Assemblée? Ça, c'est rien précisé. Donc, il y a quand même peu de chances qu'il y ait des résultats concrets derrière cette mesure. Et les arguments quand même contre étaient quand même assez bidons, notamment la sénatrice qui a voulu retirer l'amendement au Sénat. Du coup, elle avait comme argument que c'était stigmatisant pour les personnes qui mettraient un oui pub sur leur boîte aux lettres. Donc c'est quand même des arguments extrêmement poussés et fouillés, quoi. Enfin, voilà.
Donc finalement, peu de propositions ont été retenues. Après,
des avions publicitaires a été maintenue. On a bien vu que c'était un peu ridicule parce qu'à peu près 2 semaines après, il y a eu un bateau publicitaire devant Cannes. Je ne sais pas si on avait entendu parler. C'est un truc, voilà, ça a fait un peu de bruit parce que c'était vraiment un énorme écran face à la plage de Cannes. Et on s'est rendu compte que ce genre de choses, c'était complètement dans l'esprit de la loi. Mais en fait, ce n'était pas interdit. Donc en fait, on ne pouvait rien faire. Donc déjà, cette mesure qui était une micro-mesure, elle est en plus ridicule et insuffisante par rapport à ce que ça voulait faire. Et le seul autre truc, c'était du coup ce WePub qui est transformé en juste une expérimentation sur base de volontariat. Donc c'est pas grand-chose.
L'année précédente, on avait beaucoup travaillé aussi sur
une autre loi, la loi économie circulaire.
Voilà.
Encore une fois, du coup, on avait fait comme ça tout un dossier avec les propositions qu'on avait. Parce que du coup, la loi économie circulaire, au départ, ne parlait pas de la pub. Ça parlait d'obsolescence, ça parlait de réutilisation. Et nous, ça nous semblait aberrant en fait que la pub ne soit pas mentionnée là-dedans. Parce que finalement, la pub est une incitatrice à gaspiller, à ne pas réutiliser, à racheter des nouvelles choses toujours. Et du coup, ça nous semblait évident que dans l'esprit de la loi, il fallait qu'il y ait ça. Donc on a fait tout un rapport avec des propositions qui étaient sur les contenus du coup interdits à les publicités qui incitaient à la destruction, au mésusage des objets, incitaient à remplacer avant même que ce soit usé. Dit comme ça, par exemple, l'incitation à la destruction des biens, on se dit que c'est un peu bizarre, mais en fait, si on regarde les pubs, il y en a beaucoup en fait. Voilà, et puis plein de petites pratiques, un peu par exemple, un peu plus sournoises, notamment le numérotage de produits, comme par exemple les téléphones. Le fait qu'il y ait un iPhone 11, un iPhone 12, ça fait que direct l'iPhone 9, il est obsolète en fait.
C'est une obsolescence, pas programmée comme la vaisselle, mais une obsolescence...
psychologique, voilà. Marketing, il y a beaucoup de termes. Voilà. Ouais. Du coup, voilà, c'était un peu recentré ce sujet-là. Et encore une fois, on a travaillé avec les députés, on a proposé nos amendements, on les a appelés. Les seuls qui ont un peu retenu nos arguments, c'était les députés de la France Insoumise. Et du coup, il n'y a rien qui est sorti au final.
Vous n'êtes pas contre la pub.
Exactement.
La résistance à l'agression publicitaire n'est pas contre la pub. Et pour la réduction de la pub, on est contre l'agression publicitaire. Alors, notamment, il y a quand même des publicités qui nous touchent beaucoup. C'est, par exemple, les publicités dans l'espace extérieur. Parce que les publicités à la télévision, bon, même si elles sont agressives aussi, les publicités à la radio, les publicités sur Internet, on les combat aussi. Mais on peut avoir la liberté de ne pas les recevoir en fermant son ordinateur, en éteignant la radio. Alors que les publicités dans l'espace public, elles, on est obligé de les recevoir. On ne peut pas les contourner. Les publicités numériques dans l'espace public, elles peuvent même être dangereuses pour la circulation. Toutes les formes de publicité sont des combats pour nous, mais celles de l'espace extérieur encore plus. Quand on fait des conférences, on explique le sens du mot publicité. Le mot publicité, c'est une information. Rendre public une information. Le mot publicité a été galvaudé. On l'a utilisé pour la publicité dans le sens vendre un produit. Alors du coup, c'est vrai qu'on a tendance, nous, à utiliser le mot pub maintenant quand ça concerne la vente d'un produit. Mais donc, on n'est pas contre la publicité. On n'est pas contre l'information. Et surtout, ce qui nous gêne le plus, c'est la publicité, la pub des grandes entreprises qui occupent la plus grosse partie de la publicité.
C'est-à-dire qu'il y a une publicité informative qui est la publicité manipulatrice. En fait, c'est ça, nous, on lutte contre la publicité manipulatrice. C'est-à-dire qu'il y a déjà, effectivement, il y a quels produits ou quelles idées sont vendues. Il y en a qui peuvent poser problème pour plein de raisons. Mais sur le fond, vraiment, il y a cette question de est-ce que c'est manipulateur ou pas, finalement. Et ça peut être manipulateur de plein de raisons. Ça peut être dans le contenu. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple de contenu manipulateur?
On vend un bonheur.
On va associer de manière un peu fallacieuse un produit avec des valeurs, avec des affects qui n'ont rien à voir. Des gros exemples, c'est, je ne sais plus, la publicité pour les cachous, où en fait, c'était une publicité télévisée, où il y avait juste une femme qui sautait au ralenti, et du coup, on voyait juste ses seins bouger. Et en fait, c'était ça la pub, quoi, pour des petites pastilles. Donc ça, c'est une association complètement fallacieuse entre un stimulus sexuel et
un bonbon.
Et un bonbon, qui, finalement, les deux, rien à voir.
Et il y a aussi, par exemple, les publicités Nutella où on voit des familles heureuses qui mangent de la pâte à tartiner le matin, elles ont le sourire. Donc voilà, on nous vend du bonheur, on ne nous vend pas de la pâte à tartiner grasse.
On voit qu'il n'y a aucune information sur le produit. Souvent, par exemple, là, très récemment, un peu partout en France, il y avait des pubs McDo où on voyait juste des gros plans de frites, même pas de logo, en fait, il n'y avait rien. Il y avait zéro information, c'était de... Là, c'était de la publicité, de la pub pure, quoi, finalement.
Alors, celles-ci, elles sont soumises à amende.
Ah oui, ok.
Parce que, justement, il n'y a pas le nom du produit. Alors, on ne sait pas si McDonald's a les moyens de payer ces petites amendes-là, mais normalement, toute pub doit être liée au nom du produit.
Et que dire de l'affichage des militants qui s'imposent à la rue, par exemple aux alentours de l'école d'architecture où se déroule l'université d'été, voire de la distribution de leurs tracts?
La question, c'est celle de l'information. Enfin, est-ce qu'il y a une information dedans? Qu'est-ce qu'on apprend? Et est-ce que c'est vraiment juste... Moi, il y a des tracts que je vois des fois, des tracts militants, où je les prends et j'ai juste envie de les jeter, parce que il n'y a rien dedans, on me vend juste un truc, le climat, enfin des trucs très vagues sans aucun contenu factuel. Et ouais, à titre personnel, moi je trouve ça un peu nul. Mais il y a du coup, pour terminer, donc il y a aussi, il n'y a pas que le contenu qui va être manipulateur, il y a aussi la manière dont on va le diffuser. Parce que la répétition, ça va être une manière d'ancrer un message en nous. Donc quelqu'un qui va mettre une banderole à un endroit, en plus là, une université d'attaque, où on est là aussi pour chercher de l'information, tout le monde arrive pour chercher des informations et en toute conscience. Alors que, pour revenir à McDonald's, qui met son logo ou ses infos partout, enfin, ni son logo, ni ses infos, en tout cas, sa pub, sa com partout, nous, on ne peut pas se prémunir de ça, parce qu'il y a un moment où tu es obligé de regarder où tu marches, tu es obligé de machin. Du coup, là, c'est manipulateur dans le sens où tu vas recevoir ce message plein de fois, et ça utilise des biais cognitifs, notamment le biais de simple exposition, qui a été étudié par un psychologue, Robert Zajon, et qui, en fait, dit que à partir du moment où on a reçu 15 fois un stimulus, on est positivement affecté par rapport à ce stimulus. Ça va être familier, en fait. Donc, quand je vais arriver, qu'il y aura un McDo, un Quick, je vais être plus familier de celui, en tout cas, qui a le plus communiqué. Du coup, je vais aller vers celui-ci.
Mais sans doute parce qu'on est en demande de restauration rapide, parce que sinon, on doit être hermétique.
C'était un exemple parmi d'autres. Hein.
Ou parce qu'on a faim. À ça ce
marche,
moment-là.
Voilà. Ça marche avec les produits bio et de la même manière, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que cette distinction entre publicité, enfin, entre information et manipulation, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas un truc de censure disant faut avoir des valeurs. C'est en dehors de cette question de valeur, c'est vraiment juste est-ce qu'on nous manipule ou pas ? Et si on nous manipule, ce n'est pas bien, en fait. Enfin, ce n'est pas bien pour plein de raisons, parce que ça, au niveau démocratique, où est l'autonomie ? Où est le choix ? Enfin, parce que là, on parle de produits, mais déjà, il y a toute cette mouvance dans les mouvements écolos de dire on vote aussi avec notre porte-monnaie. Et il y a aussi ce truc de il n'y a pas que les produits qui sont vendus non plus, c'est une question de valeur, de plein de choses.
Mais est-ce que l'essence même de l'être humain, c'est d'être manipulé ?
Alors, quand on lance le sujet de la nature humaine, j'avoue que je commence à plus du tout être à l'aise, parce que je ne suis pas certain de croire en une nature humaine. Mais oui.
On n'a pas fait d'anthropologie.
On voit bien qu'il y a quand même une différence entre la discussion qu'on a là, toi et moi, et un discours de Macron, quoi. Ou je sais pas, un communiqué d'entreprise. Enfin, on discute d'égal à égal. Enfin, il y a cette question-là, même dans l'éducation, il y a aussi. Enfin, certaines formes d'éducation sont des formes de manipulation, je pense. Mais certaines formes d'éducation permettent aussi aux enfants de s'exprimer et d'être écoutés aussi. Je pense que c'est très important
de
là-dedans.
Développer leur esprit critique. Alors, j'espère que l'éducation permettra de développer l'esprit critique.
Oui, mais en soi, un esprit critique, c'est pas défini, ça se décline. Non, mais je vous titille.
Non, mais on sent bien, t'inquiète pas, je suis pas du tout énervé là comme ça, mais qu'est-ce qui se mec, qu'est-ce qu'il nous dit ? En plus, c'est des vraies questions, parce que là, c'est aussi facile d'être entre nous, entre militants, et d'être d'accord, et de s'autocongratuler. La pub, ouais. C'est mal, mais oui, t'as raison. Je me suis perdu.
Non, sur l'esprit critique.
C'est une manière
de s'interroger. Et comme ce matin, j'ai participé à un atelier sur la place du numérique dans nos vies, c'est ça, s'interroger sur tout ce qui vient à nous. Donc c'était, sans le nommer, notre moteur de recherche le plus utilisé. Comment s'interroger sur l'utilisation de ce moteur de recherche, s'interroger sur qui héberge notre site internet. En fait, s'interroger sur tout ce qui nous entoure, et notamment la publicité, et quelle entreprise nous vend ce produit, et s'intéresser aussi à comment sont produits nos vêtements.
Pour revenir à ton truc de... Est-ce qu'on n'est pas tout le temps manipulé, pardon ? Je reprends une question avant, le temps que ça processe dans ma tête. Mais il y a vraiment une question d'égalité entre les participants. C'est-à-dire que même moi, là, si je te manipule, finalement, j'y arriverai pas de toute façon, parce que je suis mauvais à ça, mais toi, peut-être que tu me manipules, là, tu vois. Mais finalement, on est un peu d'égal à égal, c'est pas très grave. Alors qu'une entreprise qui va utiliser des millions d'euros pour faire des recherches, pour en fait vraiment cibler tes biais cognitifs, pour utiliser vraiment des techniques comportementales et ainsi te faire adopter certains comportements que tu n'aurais pas choisi, il y a vraiment une asymétrie en fait. Enfin, le budget mondial de com, c'est quand même 1500 milliards d'euros. Nous, on est là, si on prend du coup, on est 7 milliards sur la planète, ça fait quand même 75 euros par personne, tu vois, c'est quand même pas rien. Et on est quand même très peu éduqué à l'esprit critique. On est très peu éduqué à étudier les informations qui nous arrivent. En fait, c'est quelque chose qui ne nous arrive pas à l'école. Je ne sais pas toi, moi je n'ai jamais eu. Et il y a vraiment une asymétrie du coup entre finalement les citoyens, les citoyennes et...
Tout le budget utilisé par les grandes multinationales.
Et tout le pouvoir... tout le pouvoir de communication qui est mis à disposition de ces entreprises par les annonceurs, par les médias aussi, par tous les canaux de diffusion et de manipulation qu'ils ont par rapport à notre peu d'éducation.
Et puis, c'est vrai que j'ai parlé d'Internet. Ces grosses entreprises-là utilisent aussi des traceurs sur Internet qui tracent vraiment tous les clics qu'on peut faire sur Internet, tout ce qu'on écrit si on utilise une police Google. Et tous ces traceurs sont revendus à des publicitaires, à des agences de publicité pour cibler le produit, pour mieux vendre le produit. Et là, on rentre vraiment dans notre vie privée, en fait. Vraiment.
Je suis consommateur, je viens d'acheter des hamburgers pour la petite famille. Je vois le plaisir dans les yeux de mes enfants. Je suis heureux et c'est grâce au message, parce que sinon j'aurais jamais pensé. Ça crée du bonheur dans les familles.
Mais nous, on ne lutte pas justement contre toute communication. Mais c'est vrai qu'on n'a pas mentionné encore le concept de liberté de réception, quelque chose qui nous tient très à cœur. Si tu l'as dit. Parce qu'on a expliqué sur le stop pub, oui pub, mais ça peut être par exemple dans l'espace public, au lieu d'avoir des pubs partout, puisque finalement tu es assailli de pubs, même si voilà, tu vas être content parce que tu vas ramener tel hamburger à tes enfants, finalement, comme statistiquement, il y a de grandes chances que ce hamburger soit celui qui a payé le plus de com et qui a du coup bouffé la concurrence et tout. Alors que nous, ce qu'on défend, c'est des petits espaces où toi, tu choisis d'aller regarder de la pub à cet endroit-là. Par exemple, tu as envie de faire plaisir à tes enfants, bah, tu vas aller dans cet endroit où il y a de la publicité, et là, tu vas avoir cet Eldorado de communication, toutes ces incitations, et puis tu vas pouvoir dire, bah, très bien, bah, je choisis entre ça, et ça, 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 ça.
Le petit vendeur de hamburger local, il aura la même place que la grande chaîne.
Il aura sa chance. Parce que je ne sais plus si on l'a mentionné, mais actuellement en France, 80% de la publicité faite est uniquement faite par 600 entreprises, donc 0,02% de toutes les entreprises sur le territoire français. Donc il y a vraiment un truc très inégalitaire qui fait que il y a de grandes chances que si tu es allé prendre ce truc à cause de la, grâce à la pub, c'est une grande entreprise et ce sera pas le truc local, ce sera pas. Et finalement, sur le court terme, tes enfants seront heureux, mais sur le long terme, qu'est-ce que tu leur lègues comme société après ça ?
Est-ce que vous pouvez informer, communiquer sans citer les marques que vous pointez ?
Moi, j'avoue que je fais pas très attention à ça.
Et... Parce que d'une certaine manière, tu colportes une publicité.
Bah oui, parce qu'effectivement, ça rend le bad buzz, c'est une grosse partie, c'est une stratégie marketing faire une pub horrible qui va être interdite et qui du coup va n'en être que plus diffusée et on en parle et tout.
Bah pour le publisexisme aussi, on s'était posé cette question. Ouais. Est-ce qu'on utilise les pubs qu'on souhaite dénoncer dans notre rapport ? Est-ce qu'on les met en évidence pour les dénoncer ? Bah finalement, on a quand même choisi de les utiliser pour les dénoncer. On se pose souvent la question, on essaye de pas trop nommer les marques. Par exemple, on pourrait dire du ruban adhésif à la place du scotch. On essaye des fois.
Voilà. Moi, je suis assez mauvais à ça, mais c'est
on essaye dans notre groupe.
Ou alors l'alcool distillé. Merci Or.
Et Louis Chiron.
Et Or.
Tanguy Delerre.
Membre du bureau de l'association RAP Résistance à l'agression publicitaire. Pour leur libre participation à ce programme.
On est une asso nationale qui existe depuis 92. On a une quinzaine de groupes locaux actifs. On a, je crois, 600 adhérents, à peu près, adhérentes dans toute la France.
Et au niveau international, il y a un groupe qui s'est monté qui s'appelle Superstaser International. Alors, on était le seul pays au monde à avoir une association avec des salariés. Alors, on a d'ailleurs actuellement 3 salariés. Et en Angleterre, ils viennent d'embaucher une personne sur ce sujet-là.
Donc on fait du plaidoyer, on fait des actions, on écrit des rapports. J'ai oublié de le mentionner, mais il y a un rapport sur le publisexisme qu'on a sorti où on prenait des contributions de personnes qui jugeaient... Pendant un an, on a reçu ces contributions de personnes qui, dans l'espace public ou sur Internet, trouvaient qu'une pub était sexiste, expliquaient pourquoi. Et du coup, on a tiré un rapport avec plein de... Du coup, l'analyse de tout ça, et puis aussi un état des lieux sur qu'est-ce que c'est que le publisexisme, etc. On a fait.
Il y a eu un rapport là, en 2020 qui est sorti aussi, qui s'appelle par un de nos copains, qui s'appelle Big Corpo, qui utilise vraiment tous les graphiques, tout ce qui a été mis à notre disposition, toutes les statistiques qu'on utilise nous des fois un peu à l'oral comme ça, mais on ne présente pas toujours le document sur lequel on s'est appuyé. Bah, ce mémoire contient toutes ces informations. Big Corpo, c'est ça.
Et vous avez un site ?
Et on a un site, c'est antipub.org, très simple à retenir. Là-dessus, il y a du coup toutes nos actualités, toutes nos infos, comment nous joindre selon les groupes locaux, etc. Voilà.
Est-ce que je suis autorisé à faire de la publicité pour indiquer le nom du site ?
Tu es autorisé à en parler, en tout cas, tu es autorisé à le passer dans ton média.
Peut-être, non.
Peut-être que si tu fais une campagne d'affichage, on ne va pas être d'accord. Mais encore que ça dépend de l'échelle. Mais voilà, bien sûr.